Nous changeons de vitesse et nous mettons dans l'éthique. Toujours les deux extrêmes de la philosophie, hein, faut jamais l'oublier. La métaphysique, qui est l'ultime pointe au point de vue de l'intelligibilité, et le point de vue pratique, l'éthique. Tout se termine dans l'éthique et pas dans la métaphysique. C'est pas étonnant. C'est pas la spéculation, si grande qu'elle soit, qui fait que ça se termine. Ça se termine dans la contemplation. Et la contemplation implique justement ce point de vue de l'exercice. On peut étudier ce qu'est la contemplation. Et puis on peut contempler. Vous savez bien ce que, à la fin de sa vie, on disait au père Garrigou-Lagrange. Le père Garrigou-Lagrange commençait un peu à vieillir. Et il aimait bien de continuer de faire des cours. Et on lui disait quand même, vous savez, vous vieillissez, vous voudrez peut-être mieux plus en faire. L'image de marque commence à diminuer. Alors le père Garrigou se retourne vers le père qui lui disait ça, en lui disant, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Alors le père lui dit, mais mon père, contemplez, puisque toute votre vie vous avez dit que la contemplation était quand même supérieure à l'action. Alors il s'est retourné et dit, ah oui, je l'ai dit. Autre chose, le vivre. Vous voyez, alors là, vous commencez à comprendre ce que c'est que le point de vue métaphysique et le point de vue éthique. On peut dire des très belles choses. Remarquez que normalement, pour dire des très belles choses, il faut quand même avoir un minimum d'expérience. Puis ensuite, il faut le vivre. Si vous regardez dans Aristote, vous voyez que l'éthique d'Aristote se termine par la contemplation. Et ce n'est pas la philosophie première, ce n'est pas la philosophie première qui se termine par la contemplation. C'est très significatif. Dans la philosophie première, vous montrez ce qu'est Dieu. Et dans l'éthique, vous montrez comment vous devez chercher à le contempler. Les deux se tiennent. Il ne faut surtout pas opposer connaissance spéculative et connaissance pratique. Il faut distinguer. Il ne faut surtout pas opposer. L'opposition entre les deux ne voit plus rien du tout. Et pour nous, c'est très important, parce qu'on est en face de la dialectique hegélienne. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même pour l'Orient, Hegel fait des ravages. On le sait. Et la dialectique hegélienne refuse la distinction du spéculatif et du pratique. Le marxisme refuse la distinction du pratique et du spéculatif. Vous le savez bien. Il y a eu ce professeur marxiste qui enseignait à l'université, qui au bout de 10 ans après la guerre a fait une étude réflexive sur le marxisme en France. Eh bien, on l'a rayé des cadres. Il n'avait pas le droit de faire une étude spéculative sur le marxisme. Il devait vivre marxiste et considérer que oui, c'est la dialectique fait que le marxisme d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et ne faites surtout pas la spéculation là-dessus. La dialectique implique une confusion entre le spéculatif et le pratique. C'est pour ça que c'est si important pour nous de redécouvrir, et je dis bien de redécouvrir la distinction entre le point de vue spéculatif et le pratique. C'est pas si commode. C'est pas si commode. Dans le point de vue pratique, le point de vue de la volonté est toujours présent. Le principe pratique est volontaire. Mais volontaire au sens aristotélicien et de saint Thomas, pas dans le sens cartésien. Parce que le volontaire dans le sens cartésien, c'est un peu une attitude stoïcienne d'efficacité. Le volontaire dans le sens aristotélicien et thomiste, c'est l'amour. L'amour spirituel, c'est l'appétit spirituel. C'est ça la boulessis, c'est ça la volonté. C'est ce qui nous est, c'est ce qui nous permet d'aimer spirituellement. Tandis que la volonté cartésienne, c'est une volonté d'efficacité. Comme un petit peu dans le stoïcisme. C'est pas du tout une volonté d'aimer. C'est très important de comprendre ça. Donc quand je dis que l'ordre pratique est volontaire, je veux dire qu'il est d'abord de l'ordre de l'amour. Aimer son frère, l'aimer profondément, dans un amour d'amitié, c'est de l'ordre pratique. C'est pas de l'ordre spéculatif. Tandis que réfléchir sur ce que nous vivons, la réflexion que nous faisons au plan philosophique, c'est du spéculatif. Alors voyez la très grosse différence, le problème très délicat de l'éthique, c'est qu'on fait de la philosophie éthique. On étudie quelque chose qui est dans l'ordre pratique. Autre chose est aimer, autre chose est de connaître ce qu'est l'amour. Connaître ce qu'est l'amour n'est pas aimer. Connaître ce qu'est l'amour nous aide à aimer. Mais ce n'est pas l'amour. Connaître ce que c'est que l'action pratique, ce qu'est l'action volontaire, ce que nous faisons en éthique, ce n'est pas l'action volontaire. Donc comprenez bien que la philosophie peut étudier le point de vue pratique. Alors, nécessairement, la connaissance philosophique de l'éthique n'a pas du tout le même degré d'abstraction que la connaissance philosophique de la philosophie première. Ça, il faut pouvoir le comprendre, hein, et le saisir. Si vous ne l'avez pas encore saisi, ceux qui commencent, hein, ça met du temps à saisir ça. Ça met du temps. Il ne faut pas croire du tout qu'on le saisit tout de suite. Oh non, ça met du temps. Mais il faut y revenir constamment. Mais autre chose est prier, autre chose faire de la théologie. Il y a des théologiens qui ne prient pas beaucoup, hélas. Et il y a des gens qui prient beaucoup et qui ne font pas de théologie. Je dis pas hélas, je dis. Mais autre chose est faire de la théologie et autre chose prier. C'est pas la même chose du tout. Et ça se tient, quand je dis que c'est pas la même chose du tout, ça se tient. C'est évident que si on réfléchit qu'on fait de la théologie, ça doit nous aider à prier. Et si on fait une réflexion théologique, c'est pour nous aider à prier. Mais quelquefois, la réflexion théologique est telle qu'elle nous empêche de prier. Normalement, la théologie devrait se développer dans un milieu de prière. C'est comme ça que la théologie resterait parfaitement elle-même. Quand la théologie entre dans les universités, ce qui existe aujourd'hui, très vite, elle quitte le milieu de prière. Je me souviens, c'est des réactions qui sont toujours intéressantes à voir. Je me souviens d'un prêtre que j'aimais beaucoup, où il était tessinois. Première fois qu'il assiste à un conseil académique de la faculté de théologie. je mets bien tous les adjectifs, hein, conseil académique de la faculté de théologie. Il était à côté de moi, il était un peu gêné la première fois, il était à côté de moi, donc on est sortis ensemble. Il m'a dit, mais c'est terrible, dans ce conseil académique de la faculté de théologie, où c'était tous les professeurs de théologie qui étaient là présents, tous ceux qui étaient agréés, pas ceux qui étaient postulants. Mais c'est terrible. On commence ce conseil sans prier. Je dis oui. Vous avez touché du doigt quelque chose qui est dangereux. Conseil académique, donc on ne prie pas. Conseil académique. De la faculté de théologie. Vous voyez comme la laïcisation se fait. Et on est exactement comme n'importe quel autre conseil académique, faculté de sciences, faculté de littérature. C'est curieux, hein? Et je me souviens très bien, c'était c'est des réactions qu'on a au début, qu'on sent ça très fort au début, après on s'acclimate, hein? C'est si facile de descendre le fleuve. Quand je suis arrivé, je demandais à la faculté de théologie, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites pour la ville de Fribourg et pour tous ceux qui prient, pour toutes les religieuses qui sont à Fribourg? Elles étaient très, très nombreuses à ce moment-là, de toute espèce de catégorie. Ah, nous n'avons rien à voir au point de vue apostolique avec les Fribourg. Alors vous êtes là, faculté de théologie, et vous n'avez rien à voir avec ce que représente les bons chrétiens et les consacrés. Rien à voir. Mais c'est effrayant. Et vous vous appelez faculté de théologie. Vous voyez la coupure, hein, du point de vue spéculatif qui se coupe du point de vue pratique. Le point de vue pratique, c'est que des théologiens doivent prier. Pour être des théologiens, ils doivent prier. Un théologien, pour être un théologien, doit avoir un sens apostolique. Autrement, il n'est plus théologien. Je regrette. Ça devient un érudit. Et la théologie devient une question d'érudition. Et elle perd le sens profond de sa finalité, qui est avant tout une question de foi. Et la foi demande la prière. Et la foi réclame le témoignage. Et donc la vie apostolique. Je vous donne ces petits exemples pour que vous compreniez mieux, parce que c'est les problèmes d'aujourd'hui, ça. Hein, de distinguer tout le temps l'aspect spéculatif et l'aspect pratique. Ne pas les opposer, ne pas les séparer, mais les distinguer. Et de comprendre que dans notre vie humaine, les deux sont liés. Si on réfléchit, c'est pour mieux vivre. Si on réfléchit sur l'éthique, c'est pour mieux vivre. Dans cette éthique, nous avons précisé différents moments de l'action volontaire, puisque c'est l'action volontaire qu'on étudie en philosophie éthique. L'action volontaire, vous voyez, elle est très simple. Vous venez ici au cours, vous l'avez fait un acte humain pour venir au cours. Un acte libre. Même si c'est par obéissance. Vous êtes au cours par obéissance. Si on est religieux, les autres qui ne sont pas religieux, ils viennent parce que ça leur plaît, parce que ça leur désire. Mais au fond, les autres, ils sont ici par obéissance. Ils peuvent s'ennuyer mortellement, ils font un acte héroïque d'obéissance. Il faut un acte héroïque d'obéissance. C'est quelquefois comme ça. Voulez-vous qu'on assiste à des cours, il y en a d'intéressants, il y en a moins intéressants. Mais l'obéissance est toujours là, qui met la continuité entre ce qui est intéressant et pas intéressant. C'est la continuité, c'est l'obéissance. Et on assiste au cours par obéissance. Est-ce que c'est suffisant d'assister au cours par obéissance pour être un acte humain? Vous assistez au cours par obéissance. Mais si vous allez jusqu'au bout de l'obéissance, vous assistez au cours pour devenir un peu plus intelligent. c'est la finalité du cours, d'acquérir un petit peu la vérité. Donc, d'être un peu plus intelligent. Et pour être un peu plus intelligent, il faut coopérer. On n'assiste pas au cours d'une façon passive. On doit coopérer. On doit essayer d'entrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'on doit poser des questions toutes les 5 minutes, puisque la discipline fait que vous ne pouvez pas trop, sauf si vraiment il y a quelque chose qui presse, alors vous levez la main et dites « Mon père, vous avez dit quelque chose qui me révolutionne. » Je dis « Très bien, très bien. » Alors si elle fait la boutique, il vaut mieux que tout de suite il y ait des pompiers. Alors à ce moment-là, on répond tout de suite. Normalement, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous l'écrivez. Question. Et puis il y a le parrainage. Il y a des parrains qui sont là pour être des pompiers. C'est une fonction de parrainage pour faire que le feu à la boutique ne soit pas trop grand. Et puis il donne des explications, il essaie d'expliquer. Mais vous écrivez tout de suite. C'est comme ça que vous coopérez. Quand il y a quelque chose dans le cours que vous ne comprenez pas, vous l'écrivez tout de suite. Si vous ne l'écrivez pas, vous l'oublierez. Tandis que si vous l'écrivez, ah, c'est bien, vous allez progresser. On progresse dans la mesure où on interroge. Autrement, on ne progresse pas du tout. On est passif. Va comme je te pousse. J'y comprends rien, sans aucune espèce d'importance. Il y a à côté de moi aussi quelqu'un qui ne comprend rien. Alors, ça va. Oh, il y en a qui disent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Si vous n'interrogez pas, vous ne progressez pas. Alors, il ne faut pas nécessairement interroger, vous voyez. Mais je crois que dès qu'il y a dans le cours quelque chose que vous ne comprenez pas, une expression, « Ousia », qu'est-ce que c'est « Ousia » Alors, vous l'écrivez. Vous l'écrivez comme vous pouvez. Hein. Alors, vous l'écrivez, vous dites « Qu'est-ce que c'est avec un point d'interrogation, Ousia ?» Transcendant, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? Toutes les expressions que vous ne comprenez pas, vous les écrivez. Et vous demandez au parrainage de les expliquer. Pour qu'il y ait un dialogue. Et quand le parrain n'a pas eu assez d'eau de pompiers pour arrêter le feu, pour l'expliquer, ou l'augmenter quelquefois, parce que quelquefois, c'est les pompiers qui sont faits pour arrêter le feu ou pour l'augmenter. C'est très curieux, c'est comme ça. Alors quand au parrainage on n'a pas pu l'expliquer, vous mettez sur un mot. Puis de temps en temps on aura des gouttes de lait pour expliquer vos questions. Parce que je crois que c'est important, il faut la coopération. Et on coopère dans la mesure justement où notre intelligence est en état d'arrêt. Vous savez, l'interrogation pour Platon, c'est le chien de chasse en état d'arrêt. Il y a du gibier là derrière. On ne le voit pas, mais on sent qu'il y a quelque chose. Ah là, il y a quelque chose d'intéressant. Je ne vois pas. Vous ne pourriez pas expliquer un peu plus. Vous ne pourriez pas aller un peu plus loin. Vous voyez, l'interrogation n'est pas tout le temps en opposition. C'est au contraire parce qu'on veut aller plus loin. On interroge parce qu'on veut aller plus loin. Ça, c'est l'appétit de notre intelligence. C'est le désir de notre intelligence d'aller plus loin. Alors on interroge. Et notre vie intellectuelle, elle est faite comme ça. S'il n'y a pas ça, on risque de s'endormir. Très très vite, on s'endort. Parce que c'est pas commode hein, d'être éveillé au point de vue de l'intelligence. C'est pas commode. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des étés noirs. Et là, on arrête. Alors, il faut redécouvrir ce que c'est que la vie de l'intelligence. Et c'est une vie, l'intelligence. On redécouvre ce désir de l'intelligence d'aller toujours plus loin, d'entrer de plus en plus dans cette recherche de la vérité. Alors, au point de vue éthique, on voit très bien qu'il y a l'action volontaire de l'homme à l'égard de l'homme. Ce sera la première partie de l'éthique, à partir de l'expérience de l'amour d'amitié. Puisque l'éthique doit se faire à partir de notre expérience. À partir de notre expérience, je ne fais pas l'éthique à partir de « fais ceci ». C'est une expérience, remarquez. Si j'étais conscient, c'est ça qui serait intéressant à voir, de voir toute la diversité des positions éthiques philosophiques. Si j'étais qu'ancien, je partirais de l'Imperium. Fais ceci. Et je ferai l'éthique du commandement. C'est très beau, du reste. Ça fait partie de l'éthique, hein, l'éthique du commandement. Mais c'est un petit peu court. Vous comprenez bien, c'est pas fondamental. Il y a quelque chose qui va plus rien, qui va plus loin. Pourquoi acceptez-vous cet Imperium? C'est parce qu'il y a un lien d'amour. S'il n'y avait pas d'amour, l'Imperium, c'est très sec. Vous laisseriez tomber. Pouvez-vous commencer à partir d'une expérience ancienne? Oh, l'éthique, ça commence quand l'enfant commence à sourire à sa mère. Rappelez-vous votre premier sourire. Il était très très beau, votre premier sourire. Mais vous n'avez plus aucune expérience de ça, du moins. Moi, je ne l'ai pas. Vous l'avez peut-être. C'est peut-être ce privilège. Alors, si vous vous rappelez votre premier sourire, vous pourriez faire un petit article là-dessus. Mon premier sourire à ma mère, c'était extraordinaire. Je crains que ce soit très imaginatif et qu'il n'y ait pas beaucoup d'expérience. Mais que ce soit très imaginatif. Oui, on a toujours dit que mon premier sourire était ravissant et que tout le monde a trouvé que là, je ressemblais à ma mère d'une façon étonnante. Je souriais comme elle. Et on a pris même un flash de mon premier sourire. Et quand je regarde, je reconnais qu'en effet, c'est admirable. Je ne m'y reconnais même pas moi-même. J'ai évolué depuis, n'est-ce pas ? Puis-je faire l'éthique à partir de mon premier amour ? L'amour de l'enfant pour sa mère. Puis-je faire ça ? Je dis non. Parce que l'amour de l'enfant pour la mère, je n'en ai plus l'expérience actuelle. Je sais très bien que ça existait. C'est sûr que ça existait, mais je n'en ai pas l'expérience actuelle. C'est donc quelque chose d'un souvenir imaginatif. Je ne peux pas. Je fais l'éthique à partir de mon expérience actuelle. C'est l'éthique philosophique qui commence par l'expérience que j'ai de mon acte volontaire. Mon acte volontaire, quel est le plus parfait acte volontaire dont j'ai l'expérience? C'est le choix amical d'un ami. C'est à l'intérieur de l'expérience de l'amour d'amitié que j'ai une expérience extrêmement forte de ce que c'est que le volontaire. Le volontaire s'exprime de la manière la plus parfaite dans le choix de l'ami. Et c'est vrai, c'est dans le choix de l'ami, c'est quelque chose de très important. Et j'ai comme témoignage que dans certaines philosophies, entre autres dans le stoïcisme, qui a très fort le sens du volontaire, le choix volontaire caractérise la personne. Chaque fois que je fais un choix volontaire, amical, je me livre dans ce qu'il y a de plus profond en moi. Je crois que la première partie de l'éthique consiste à analyser ce qu'est le choix amical, le choix volontaire à l'égard de l'ami. Vous allez me dire, mais j'ai aucune expérience de ça. C'est possible. J'espère que ça viendra un jour. Parce que c'est triste d'avoir aucune expérience de ce que c'est que l'amitié. Ah, mais faites attention, je crois qu'on a tous une certaine expérience de l'amitié, plus ou moins forte. La philanthropie, pourquoi j'aime mon voisin? Parce qu'il est mon voisin. Alors, il faut bien s'entendre avec lui. Eh bien, philanthropie. Il y a un certain amour dans la philanthropie. C'est pas le grand amour. Tu es semblable à moi, c'est pour ça que je t'aime. Tu es un homme descendant d'Adam et d'Ève, c'est pour ça que je t'aime. Tu es mon contemporain. Tu as à peu près le même âge que moi, c'est pour ça que je t'aime. Tu es né pas très loin de chez moi, c'est pour ça que je t'aime. Tu as la même langue que moi, c'est pour ça que je t'aime. Oui, ce sont des motifs très très seconds, hein, mais qui existent. C'est quand même une petite expérience de l'amour d'amitié. C'est suffisant. Si on a une expérience plus profonde, ah, ça ira plus loin. Vous voyez, notre philosophie dépend de la qualité de notre expérience. Ça, c'est sûr. Si vous avez une expérience extrêmement faible, votre philosophie n'ira pas très loin. Si au contraire, vous avez une expérience très forte de ce que c'est que l'amour d'amitié, alors vous comprendrez beaucoup mieux que l'amour d'amitié noue, d'une certaine manière, votre personne dans l'ordre pratique, dans l'ordre volontaire. La première partie de l'éthique, c'est donc l'analyse de l'amour d'amitié, à travers cette expérience que j'ai du choix amical. Mais ce n'est pas suffisant. L'homme est capable d'aimer volontairement celui que les traditions religieuses appellent Dieu. L'homme est capable d'adorer celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Celui que notre foi chrétienne appelle Dieu. Notre Père. Celui qu'au point de vue philosophique, j'ai découvert comme étant l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Je peux donc, à partir de ce lien que j'ai avec mon Créateur, je peux donc découvrir une nouvelle dimension de l'activité volontaire, qui n'est plus du tout la même, qui est tout autre. Et c'est à partir de là que va s'ouvrir cette analyse que nous faisons maintenant, l'éthique religieuse. L'attitude religieuse, c'est à l'égard de Dieu. Vous n'avez pas une attitude religieuse à l'égard de votre voisin. Ça deviendrait dangereux. Parce qu'il serait votre idole. Oh, je t'aime tellement que je t'adore. Vous savez, on dit ça de temps en temps. Hein. Moi, ça m'exaspère. On a envie, à ce moment-là, d'être comme Gédéon, détruire les idoles. Vous savez, cette personne qui est avec son petit chien. Oh, comme je t'adore. Oh, c'est effrayant. C'est effrayant. La décomposition de l'amour humain dans ce petit chien. Parce que c'est vrai, l'adoration, au sens strict, c'est un amour volontaire à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur. Il y a un acte tout à fait particulier, un acte propre, qui est l'attitude de l'adoration. C'est un acte volontaire, c'est un acte d'amour. Un amour à l'égard de Dieu. Donc, il y a là une nouvelle expérience qui va donner comme un champ nouveau à l'éthique. Et c'est cela que nous appelons l'éthique religieuse. Puis il y aura une troisième partie dans l'éthique, l'éthique chrétienne. C'est que je vis en tant que philosophe, je vis avec un chrétien qui est moi ou mon voisin. Et je sais très bien que certains de mes actes sont posés en tant que chrétien. Et non pas seulement en tant qu'homme. Ils font appel directement à ma foi. Ils font appel directement à mon espérance. Ils font appel directement à ma charité. Que peut dire le philosophe de cette attitude du chrétien? C'est ça l'éthique chrétienne. Vous voyez, ce n'est pas une apologétique, Et je crois que c'est la seule apologétique qu'on doit faire aujourd'hui. C'est une philosophie chrétienne au niveau éthique. Parce que là, il y a une philosophie chrétienne. La philosophie chrétienne est avant tout et en premier lieu du côté de l'éthique. Il n'y a pas, au sens strict, de philosophie chrétienne au niveau de la philosophie première, au niveau métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Même si Gilson le dit, j'aime beaucoup Gilson, mais j'aime mieux la vérité, donc je dis, il s'est trompé. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne, je regrette. Tandis qu'il y a une éthique chrétienne. Il peut y avoir aussi, d'une certaine manière, un art chrétien. C'est déjà plus délicat. Peut-il y avoir une politique chrétienne? Point d'interrogation. Même s'il y a des journaux qui se disent la croix. Venez, c'est. Est-ce qu'il y a une politique chrétienne ou est-ce qu'il y a des hommes chrétiens qui font de la politique? C'est très important, ça. Il y a des hommes musulmans qui font de la politique. Il y a des hommes marxistes qui font de la politique. Il y a une politique marxiste, c'est vrai. Y a-t-il une politique chrétienne? Je pose la question, hein. Je la résous pas. Trop délicat de la résoudre en 2 minutes. Trop délicat. C'est très difficile. Mais il faut se poser la question. Si on ne s'est jamais posé la question, au moment des élections, on ouvre des grands yeux. Il faut quand même que la philosophie vous aide à mieux élire hein, quand vous devez faire un acte de citoyen. Vous le faites au nom de la foi, vous le faites au nom de votre intelligence philosophique. On ne doit avoir aucun a priori. Aucun. Même pas politique. Ce qui est très très difficile. Parce qu'on a des quantités d'a priori politiques. Parce que ça s'enracine dans nos passions ancestrales. Alors il faut essayer de découvrir ça. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Vous voyez, 3 niveaux d'éthique. Éthique humaine, éthique religieuse, éthique chrétienne. Et ce sont les 3 niveaux que le philosophe doit essayer de préciser. Et je mets éthique chrétienne parce que nous vivons comme chrétiens. Je pourrais poser la question, l'éthique musulmane. Quelle est cette éthique ? Est-ce que c'est plus qu'une éthique religieuse? Ou est-ce que c'est une éthique religieuse qui n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être? C'est très important, ça. Et c'est très intéressant. Si on avait le temps, on le ferait. Mais pour tous ceux qui sont en contact avec l'islam, ils doivent le faire. Ils doivent se poser, y a-t-il une éthique musulmane? Qu'est-ce que c'est que cette éthique? Et quelle différence y aurait-il entre l'éthique religieuse que nous faisons maintenant, que nous essayons de faire? Je dis bien que nous essayons de faire, parce que c'est pas commode à bien faire. Je prends l'islam, je prends le judaïsme. Y a-t-il une éthique juive? Qu'est-ce qu'elle est? Quelle différence y a-t-il entre une éthique juive et l'éthique chrétienne? Je mets la position entre les deux. Pas l'opposition, je distingue. Vous voyez, et ça, c'est le grand, grand problème d'aujourd'hui. Hein. C'est, au point de vue de l'œcuménisme, vous comprenez, il y a d'abord une étude préalable qui n'est jamais faite, hélas. C'est de comprendre le point de vue de l'éthique. L'éthique chrétienne catholique, l'éthique chrétienne luthérienne, l'éthique chrétienne calviniste. Au niveau de l'éthique philosophique, ça nous aiderait énormément à mieux comprendre les problèmes. Et je crois que c'est un soubassement que nous ne faisons pas habituellement, hélas. Vous voyez, exactement, pour vous donner un exemple pour vous montrer l'importance de ce que nous faisons là. Voyez par exemple l'avortement. L'avortement. On peut critiquer l'avortement, du moins montrer que l'avortement est inadmissible au niveau éthique humaine, au niveau éthique religieuse, au niveau éthique chrétienne. Et les arguments ne sont pas les mêmes. Or, ordinairement, quand vous voyez ceux qui s'opposent à l'avortement, ils mêlent tout. Ils mêlent tout. Des arguments chrétiens, des arguments religieux, des arguments humains. Alors que je crois qu'en face de tous les problèmes, l'euthanasie par exemple, on doit comprendre que c'est contraire à l'éthique humaine, que c'est contraire à l'éthique religieuse, que c'est contraire à l'éthique chrétienne. Et ce ne sont pas les mêmes arguments. Vous comprenez très bien qu'il y a des arguments qui sont pour les chrétiens, il y a des arguments qui sont pour tous ceux qui croient dans le Créateur et qui adorent, et puis il y a des arguments qui sont proprement humains pour ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas religieux. Quelquefois, il n'y a pas d'argument. Et ça, c'est très important de bien saisir ça. Alors, on va poser cette question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la différence qui existe entre la dévotion, point de départ du théologien, confère saint Thomas, et l'adoration, point de départ du philosophe, et l'explicité. Ne s'agit-il pas, dans les deux cas, de la reconnaissance par l'homme de la dépendance radicale dans tout son être à l'égard de Dieu? Pourquoi dites-vous que, du point de vue philosophique, la dévotion n'est qu'une conséquence de l'adoration? C'est très intéressant, ce problème. Je cherche, hein. Je ne dis pas que nécessairement, c'est ce que je vous dis, je cherche, c'est un problème que je cherche depuis longtemps. Vous voyez, quand vous regardez le traité de la Somme théologique sur la vertu de religion, vous voyez bien que saint Thomas part tout de suite de la vertu de religion. Le philosophe ne part pas de la vertu de religion. Parce que mon traité éthique ne part pas des vertus. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que les vertus, c'est quelque chose d'acquis. C'est donc pas fondamental. Si j'étais stoïcien, je ferais la philosophie des vertus. C'est la différence entre le stoïcisme et une éthique réaliste. Une éthique réaliste part de l'activité humaine et pas des vertus. Tandis que le théologien, lui, part tout de suite des vertus. Saint Thomas fait l'éthique des vertus. Et il a raison. Je ne le critique absolument pas. Mais en tant que philosophe, je ne pars pas des vertus. Pourquoi ? Parce que au-delà de la vertu, il y a l'activité humaine, l'activité volontaire. Et vous voyez tout de suite, le philosophe doit regarder les choses dans ce qu'ils ont de plus radical et plus fondamental. Or, la vertu est quelque chose d'acquis. Donc, ce n'est pas quelque chose de radical et de premier. Si importante que soit la vertu, elle n'est pas quelque chose de radical et de premier. Il y a avant la vertu ce qui est cause de la vertu. La vertu n'est pas innée. Vos vertus morales sont des vertus acquises. Vous devenez un homme religieux. Et vous ne naissez pas avec la vertu de religion. Vous devenez un homme religieux. C'est-à-dire que progressivement, on acquiert ce qu'on appelle la vertu de religion. Et on acquiert comment la vertu de religion ? En faisant des actes religieux. Quels sont ces actes religieux que vous faites ? L'adoration. Et vous acquérez comme ça, progressivement, la vertu de religion. C'est en posant des actes volontaires, antérieurs à la vertu, parce qu'ils sont premiers, parce qu'ils sont fondamentales, que vous pouvez comprendre mieux comment les vertus ne sont pas quelque chose de premier, mais c'est un fruit. L'ordre que donne saint Thomas de son traité, c'est à partir de la vertu de religion. Alors que l'ordre du philosophe, c'est à partir de l'expérience. Alors, on va revenir là-dessus la fois prochaine, parce que c'est très important. Et réfléchissez là-dessus. Vous voyez, le théologien, lui, va donner cet ordre, l'ordre que prend saint Thomas. C'est très intelligent, c'est très fort. Il part donc de la vertu de religion. La religion est-elle une vertu? Et à partir de la vertu de religion, il regarde la dévotion, la prière, l'adoration, le sacrifice, l'oblation et les prémices, les dîmes. C'est un ordre du théologien. Et nous essayons de redécouvrir l'ordre génétique que le philosophe, lui, est capable de saisir, qu'il doit même saisir, pour progressivement montrer comment va naître en nous la vertu de religion.